In 500 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le 147e épisode de Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et ce n'est bien évidemment que sur Radio G. Ce monde des livres, il est nécessaire de toujours en parler parce qu'il n'est jamais serein. Après les confinements au cours desquels, vous vous en souvenez, la lecture avait été érigée au rang de panacée, les librairies avaient rejoint non sans mal la cohorte des commerces dits essentiels et les médias s'étaient exclamés « grâce à la Covid, les librairies ont retrouvé un second souffle ». Tout le monde pensait que le monde d'après ne serait plus comme le monde d'avant. Mais l'économie libérale a des raisons que la raison ignore. Et une nouvelle fois, une librairie va probablement fermer à Angers. Rien moins que la librairie Contact, avec en même temps la SADEL. La nouvelle est tombée brutalement et nous rappelle que, comme l'a dit le poète, jamais rien n'est jamais acquis. Revenons au programme du jour. L'émission sera bicéphale avec deux invités tout à fait particuliers. D'abord, Pierre Soletti, un auteur plus que prolifique qui entame une résidence poétique à la Miel 49. Et dans un second temps, je recevrai Jean-Hugues Villacampa qui crée avec deux compères rien moins qu'une nouvelle maison d'édition. Bonjour Pierre Soletti.
Bonjour.
Bonjour Delphine Lemener.
Bonjour.
Voilà, je la prends par surprise, mais Delphine accompagne Pierre Soletti dans tout son périple pendant cette résidence. Et bien entendu, bonjour Jean-Hugues.
Bonjour.
Alors, pas dépaysé, hein, tu as pris tes marques. Hein.
J'ai reconnu les murs, oui.
Ouais, c'est ça, c'est ton micro, fait. C'est ton micro habituel.
Non.
Non, pas du tout.
Non. Bon. C'est Pierre, il m'a pris mon micro.
Bon. Eh bien, on va commencer par vous, Pierre Soletti. Sur votre site, votre présentation commence comme ça. Poète, dramaturge, cinéaste, souvent dans la rue. Mais quand on regarde la somme de vos travaux, on serait plutôt tenté de vous qualifier de touche-à-tout. Laquelle de ces deux approches a votre préférence ?
Eh bien, je touche à tout parce que tout me touche, d'abord. Et les deux ont ma préférence. C'est toujours délicat de se présenter de toute façon.
Oui.
Ce qui est intéressant, c'est de faire.
Voilà, et c'est une esquive. Alors, en parlant de faire, je vais juste un tout petit peu récapituler. 60 livres publiés, 16 livres d'artistes, 10 CD vinyles, 3 films, 21 spectacles, une traduction et 2 jeux d'artistes. Et ça fait plus de 20 ans que ça dure. Votre premier texte, pièce détachée de Magie ordinaire aux éditions Encre Vive, apparu en 2003. Alors, comment faire pour embrasser une telle production ? Ça, moi, j'avoue, je n'ai pas su faire. Alors, j'ai décidé de faire simple. J'ai décidé de m'arrêter sur vos deux dernières productions. Enfin, je crois, parce qu'avec vous, peut-être qu'il faut se méfier, peut-être qu'il y en a eu d'autres entre-temps. J'ai décidé de m'arrêter sur 36 000 choses à faire avant de rejoindre Pérec. Et puis la seconde, ce sera de la pluie sur les sièges. Alors, si on commence par 36 000 choses à faire avant de rejoindre Pérec, publié par les carnets du dessert de Lune. Ce projet, il est né comment ?
Ce projet, il est né d'abord de l'amour de l'écriture de Pérec, et puis également parce que Pérec a écrit un texte, enfin c'était presque une improvisation, il avait écrit rapidement pour une radio, 36 choses à faire, 37, et puis finalement il y en a eu 50. Et donc, il parlait des choses à faire et je trouvais ça terriblement émouvant. D'autant qu'il ne savait pas encore qu'il était malade. Il est mort quelques mois après seulement. Et donc, je me suis dit que bon, 36, il l'avait fait. Je vais aller un peu plus loin. Donc, voilà, j'ai écrit. Mais c'est vraiment un texte, un hommage à Pérec. Et en même temps, ça permet de parler de l'être humain.
Ça répond donc, c'est la question de l'hommage qui était prééminente, ou bien ça rejoint un peu tout ce que vous avez pu travailler au cours de toute cette production.
Non, ça rejoint évidemment tout ce que j'ai pu faire au long d'une vie. Mais également, ça permet aussi de poétiser, d'être dans de la poésie. Parce que je me rends bien compte que la poésie, elle n'est pas du tout au cœur des préoccupations. La poésie, ce n'est pas tendance, contrairement à tout ce qu'on entend partout. Enfin, si la poésie, elle est tendance, les poètes, pas trop, en tous les cas. On invite plus facilement un chanteur célèbre qui fait de la poésie, ou un romancier, une romancière, mais les poètes, en tous les cas, la poésie, elle n'est pas vraiment au cœur, parce que la poésie, c'est aussi une façon de réfléchir, ça demande une exigence de la pensée. Une pensée qui va à contre-courant de l'efficacité servile du résultat. Le poète n'est pas rentable. Mmh. Il ne sera jamais rentable. Et donc, c'est un hommage un petit peu à tout ça que je fais au travers de tous mes livres, finalement. C'est une façon de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière bien pensante, mais c'est surtout remettre de l'humain au cœur et puis de la poésie, vraiment de diffuser la poésie. C'est pour ça que je suis très heureux de faire cette résidence, parce que ça me permet aussi de pouvoir rendre la poésie, enfin du moins la faire entrer dans des lieux comme les écoles, et puis en parler avec des enfants, parler avec des adultes, voilà.
Alors, et pas n'importe où, parce que le territoire de Villevêque, c'est quand même un territoire très, très particulier, en ce sens qu'on est en pleine ruralité et on est sur des territoires certainement où la poésie a peut-être un peu plus de mal encore à pénétrer.
Elle n'a pas plus de mal ici qu'ailleurs.
Ouais. Non. Oh, zut.
Non, parce que mais comme je vous disais, la poésie, elle n'est pas assez au cœur des préoccupations. Comme je dis souvent aux gamins, moi, j'adorerais que les journaux télévisés ou radio, à la radio, enfin n'importe où, au lieu de se terminer par le CAC 40 qui concerne 40 personnes, puisque personne ne comprend rien à la bourse en vérité, ou par le sport ou je ne sais pas quoi, terminer par une poésie, ça changerait beaucoup le monde, parce que les mots ont une action sur le monde. Mmh. Hein, Michel Butor y croyait beaucoup, c'est lui qui disait cette phrase. Et de fait, il a raison, parce que ce soit la poésie, la philosophie, enfin l'écriture, elle change la vie même de ceux qui n'ont pas lu les auteurs qui écrivent des textes de poésie ou de philosophie.
Est-ce qu'il n'y a pas, avec ce fascicule, ce recueil, est-ce qu'il n'y a pas quand même tromperie sur la marchandise ? Parce que vous annoncez quand même 36 000 choses. Hein. Moi, j'en ai compté que 332.
Oui,
il en manque quand même 35 668. Parce que si il faut aller faire de la poésie jusqu'au bout.
C'est pour ça que je vous invite à poursuivre. Voilà, c'est pour ça qu'il y en a. Il reste d'ailleurs une page blanche à la fin pour poursuivre et faire les siens.
Oui, sauf que... Non seulement il n'y en a pas 36 000, mais vous avez quand même été rude. Hein. La dernière page, on ne s'en sort plus. Quoi. En fait, les 36 000, elles sont peut-être dans la dernière page, finalement.
Ils y sont, oui. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les poètes ne comptent pas... ils ne sont pas dans une comptabilité marchande, en tous les cas. Mmh. Vous voyez ?
Oui.
Bon, donc, ils s'en mêlent dans les chiffres, et c'est très bien comme ça. Voilà. Et puis c'est un livre un peu espiègle en même temps, parce qu'il y a souvent beaucoup d'humour dans ce que j'écris quand même.
Vous en avez parlé un petit peu, vous avez parlé de cet hommage à Pérec. Et Pérec, il représente quoi pour vous ?
Déjà, il faut lire son recueil de poèmes. Donc c'est quelque chose de très puissant. Je trouve. Et moi, il représente aussi, parce qu'il s'intéressait au cinéma, il a écrit pour le cinéma, Série Noire. Ses romans sont toujours très formels. Et c'est son approche poétique du monde qui m'intéresse chez Pérec. Que ce soit Je me souviens, enfin, que ce soit. Ça, ce sont des textes qui ont toujours l'air très simples. Très, très simples, mais qui sont savamment construits. et qui font nous poser des questions.
Alors, la référence à Pérec, vous allez jusqu'au bout, hein, puisqu'à un moment donné, dans ces 36 000 choses à faire, vous citez Pérec, mais vous citez Pérec dont vous avez supprimé les E pour bien nous remettre, nous remettre au bon endroit. Quoi, hein.
Exact.
Dans ce livre, donc, hein, moi, j'ai retenu quelques références que vous faites. Hein, il y a des artistes que vous citez nommément. Alors, il y en a un premier. Finalement, j'ai compris après pourquoi vous le citez, mais il a fallu que j'aille faire d'autres recherches. Il y a Deus, le groupe belge.
Oui.
C'est celui-là que j'ai compris après coup, parce que après je vous ai écouté chanter, je me suis dit ah peut-être qu'il y a quelque chose qui rappelle. Deus, c'est un groupe belge magnifique, enfin extraordinaire, qui avait des prestations scéniques quand même assez impressionnantes. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Voilà.
Oui, moi aussi. Je les ai vus sur scène. C'est vrai qu'ils sont impressionnants.
Oui. Y a Richard Brautigan. Il y a H.G. Wells, il y a Shakespeare, il y a Garcia Marquez, il y a Coltrane, il y a Stan Getz, il y a Miles Davis. C'est quoi qui lie un peu tous ces gens-là?
Aucune idée.
Aucune idée, c'est...
Non, c'est l'envie du moment.
Ouais.
Et c'est vraiment les mots. C'est les mots qui les lient, c'est le livre, quoi.
Ouais, ouais.
Je les ai mis là-dedans. Ils sont venus à mon esprit, comme ça, en écrivant.
Ah ben, Coltrane, Getz et Miles Davis, c'est dans la même phrase, hein.
Oui, oui, ben, oui, mais en même temps...
C'est... Et en plus, ça joue sur les noms, ça joue sur tout. Hein.
Et c'est leur note que j'aime bien, surtout Coltrane.
Ah,
Coltrane m'avait vraiment profondément influencé enfant. J'écoutais ça à toute berzingue, quoi. Je mettais le son très très fort.
Ah oui.
Et voilà, puis après j'avais fait un masterclass avec son batteur, qui frappe comme une mule d'ailleurs, j'étais très surpris. Il joue vraiment très très fort, Elvin Jones. Ça m'avait surpris, sa batterie avancée. Il fallait mettre des poids à chaque fois. Et donc, pour moi, c'était magique de travailler avec lui parce que vraiment, ça, la musique de Coltrane, c'est des notes. Et les notes, la musique est faite de notes, mais les écrits aussi, hein, on note quand on écrit.
Quand vous dites que vous écoutiez ça à fond les gamelles quand vous étiez plus jeune. C'est vraiment plus jeune?
Ah oui, oui, enfant, ouais.
Ah oui. Alors vous avez eu de la chance parce qu'il a fallu avoir ses disques quand même chez soi.
Oui, mais mon frère était mélomane.
Ah.
Et c'est par mon frère Patrice qui lui écoutait beaucoup de musique, à la fois de la musique savante et à la fois des musiques improvisées. Il commençait à s'intéresser beaucoup à ça. Et donc, lui est devenu un musicien, un vrai musicien, on va dire. Et donc, c'est par lui que j'ai eu cette chance-là d'écouter Miles Davis très tôt, et sans explication. Ça, il y avait ses disques. Alors, c'était très étonnant, parce que moi, avant ça, je n'écoutais pas du tout ces musiques-là. Et puis, il est revenu un jour du collège avec tout ça, des disques à écouter, des choses. C'était assez marrant. Avant ça, on écoutait AC/DC.
Ce qui est bien aussi. Ce qui est très bien aussi.
Ah bah oui, ça m'a marqué.
Oui, oui, mais on comprend. Alors, si on passe à l'autre livre qui s'appelle... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle. En tout cas, on va dire « De la pluie sur les sièges ». En réalité, il porte deux autres titres. Il y a « Chant de deuil » et « Abécédaire ». Il est publié à l'atelier des Noyers. Quel titre il faut retenir en réalité?
Tous.
Tous? Vous me simplifiez la vie. Hein.
Celui qu'on veut, on choisit. Ouais.
Ouais.
C'est ça qui est bien aussi, avec la poésie, on grappille.
Alors, avec Abécédaire, il est écrit, bien évidemment, c'est Abécédaire, apostrophe R. Hein. Il y a ce jeu sur l'écriture. Dans ce livre, qui est un livre qui associe des textes à un abécédaire qui a été dessiné par Florian Bonfillon. Qu'est-ce qui a été en premier? Est-ce que c'est votre texte ou est-ce que ce sont les gravures de Florian Bonfillon?
Alors, l'éditrice m'a confié les gravures de Florian. Alors, c'est le livre le plus rapide, je pense, de toute l'histoire de la poésie, puisque, en fait, j'avais rien écrit. Et moi, je ne savais pas, mais Florian avait une expo qui allait démarrer. Et puis bon, moi, je pensais que j'avais du temps et puis j'étais très occupé par autre chose. Et ensuite, je suis tombé malade, très malade. J'ai eu une pneumopathie avec une mononucléose, avec plein de choses. Donc, j'étais cloué pendant 3 mois chez moi. Ça m'a un peu reposé, mais en même temps, bon, et j'avais oublié ce projet. Puis l'éditrice m'a rappelé, m'a dit, dis donc, est-ce que tu m'envoies le texte bientôt ? Et j'avais rien écrit. Et elle m'a dit, mais l'expo, il faut l'envoyer la semaine prochaine à l'impression. Et alors, je l'ai écrit dans la journée. Le lendemain, je me suis réveillé tôt. Et j'ai commencé à écrire, et jusqu'au soir, et le soir, je lui ai envoyé le texte, cet abécédaire-là. Mmh. Et je recevais une heure après le bon à tirer. Et la semaine d'après, il était imprimé.
C'est très, très, très proustien, ça. Je me suis levé tôt.
Ouais. Ouais, ouais. Mais, lui, il rajoute de bonheur.
Oui. ce livre, donc. Pour l'expliquer, moi je viens de le voir, je l'avais lu, mais je ne l'avais pas vu. Je l'ai vu physiquement. Le travail des éditions du Noyer est un travail magnifique. Enfin, c'est vraiment, c'est un très bel objet, beau papier, enfin, typographie extraordinaire qui concorde parfaitement avec les gravures, complètement, pas loin d'être iconoclaste, complètement assez brutal. Enfin, on les imagine bien, d'ailleurs, ces gravures avoir été faites en 1380 ou 1000. Hein, on est vraiment dans ce temps-là. Donc, le livre, on l'ouvre, on a les textes qui sont sur la page de gauche et les gravures pleine page sur la page de droite. Moi, j'ai été surpris en lisant ce livre-là parce que c'est votre écriture qui m'a surpris. C'est une écriture extrêmement romantique. Si je devais... Je vais en lire... alors, je vais lire la lettre A. Pudiquement, les étoiles se retirent. La nuit a rangé sa corne de brume. Tous les bateaux se sont perdus. Il n'y a plus de raison d'espérer. Aucun ne rentrera au port désormais. Tu n'es plus là. À quoi bon ? Et moi, en lisant ça, je ne lisais pas du Pierre Soletti. Ça m'a vraiment... Alors, est-ce que c'est l'urgence qui a fabriqué ça ? Ou est-ce qu'il y a autre chose ? Parce que c'est, ça s'appelle chant de deuil. Hein, c'est pas rien. Hein.
Oui, non, c'est un chant de deuil pour mes chers disparus. Et... oui, non, mais il y a ça en moi. Ce n'est pas le premier livre du romantique, vous dites. C'est très drôle, quoi. C'est la première fois de ma vie qu'on me dit ça et ça me plaît. Ça me plaît bien.
Moi, j'invite... En fait, j'ai lu de manière quasi hypnotique. C'est-à-dire que j'ai été happé, alors par le premier texte, « Tout n'est qu'oisellerie quand tout s'envole ». Et j'ai été happé, c'est-à-dire que je n'ai pas pu en fait m'arrêter de le lire. Je l'ai lu et j'ai été bouleversé par le texte qui correspond à la lettre C. Pour quelle aube raviver la parole, puisque tu n'es plus là ? Pas de rattrapage pour les morts, zéro pointé sur la chaussée, la pluie lave tes pas d'hier. Et moi, j'invite tout le monde à lire ça. Alors, vous avez raison. Si, à la fin d'un journal télévisé, on nous lisait ça, peut-être que l'humanité gagnerait beaucoup. Je suis complètement d'accord.
Oui, je le pense profondément.
Au regard de la... Alors, j'en ai parlé. J'ai fait un peu l'énoncé de tout ce que vous avez publié. Au regard de cette profusion, est-ce que c'est l'urgence qui vous guide ou... l'impératif de la spontanéité.
Vraiment les deux. Alors, en premier, c'est la spontanéité, c'est sûr. Et je ne peux pas m'empêcher. Je fais ça depuis toujours, en fait. Mmh. Depuis très, très jeune. Et ensuite, l'urgence, elle est là, puisqu'il y a une finalité, quand même. Alors, ça... Mon grand-oncle, qui est mort... très vieux, lui ne pensait jamais à la mort. On lui posait la question, puis il dit non, mais en fait, le matin, j'ouvre les yeux et je me dis hop, je suis encore là. Je trouvais ça très beau, mais moi, pas du tout. Alors, maintenant, j'y pense moins peut-être depuis que j'ai écrit ce livre de La pluie sur les sièges aussi. Mais j'y pense moins, mais sinon, alors enfant, je pensais qu'à ça. Et puis, toute ma vie d'adulte, quoi, j'y ai beaucoup pensé. Il y a cette finitude. Et c'est ce qui me fait de plus en plus poser la question, d'ailleurs, sur ce que font les êtres humains, ce qu'ils fabriquent, parce qu'on sait très bien qu'on a une finitude, mais on continue à vouloir faire carrière, on continue à fabriquer des armes, à vouloir acquérir ou conquérir toujours plus de territoire. Il y a de moins en moins de partage, donc je me dis, enfin, c'est des gens qui n'ont... Je ne sais pas s'ils ont conscience de leur finitude, parce que la vie est brève et précieuse. Ça, bon, les poètes savent ça, mais tout le monde sait ça en vrai. On est comme ça parce que quand on est, on nous donne la vie, mais on nous donne la mort aussi. Ça, c'est une chose. Alors, ces gens-là nient leur propre mort, sans doute. Je pense aux puissants, hein, parce que les puissants sont cons. Ça, par définition, on s'en rend compte tous les jours. On voit parce que on détruit la planète. Enfin, c'est eux qui détruisent la planète, quoi.
Oui, ne mettez pas tout le monde dans le même panier.
Voilà. Mmh. Non, mais voilà.
Mmh. Alors, il y a l'urgence, la spontanéité, mais il y a aussi le plaisir de la langue.
Oui. Ben, la langue, c'est ce qui nous fait naître. Hein. On est parce que... D'abord, on est né parce qu'on nous l'a dit. Parce que nous, on ne se souvient pas du jour de notre naissance. Hein. Et puis, la langue, c'est ce qui nous fait devenir aussi. On échange, la langue c'est de la pensée articulée et le langage est un outil, donc c'est aussi jubilatoire de s'en servir, de cet outil, de le détourner, de lui donner un sens plus profond que celui de la langue factuelle, la langue de tous les jours.
Mmh. Alors, il y a ce plaisir de la langue. Il y a, donc, on l'a entendu, la spontanéité, l'urgence, mais pour aller, parce qu'on l'a entendu, vos propos sont régulièrement extrêmement politiques. Enfin, voilà, il n'y a pas de langue de bois. Vous dites ce que vous pensez du monde et généralement, il vaut mieux dire ce qu'on pense du monde. Ça, les choses sont mieux comme ça. Mais malgré tout, c'est pas dans une posture de surplomb. Il n'y a pas un regard, vous n'avez pas un regard en surplomb. Au contraire, même, vous êtes plutôt dans le domaine de la modestie, de l'humilité. Dans une interview qui a été faite de vous, il y a un moment donné, vous dites « Je parle du plat de pâtes » parce que vous faites référence à un plat de pâtes que vous avez mangé avec des amis et vous avez considéré que c'était le beau moment, en fait, hein. Je parle du plat de pâtes avec humour, mais c'est pour souligner que la simplicité nous rend meilleurs, je crois. Pas de chichi, pas de précaution, pas la peine de se rouler dans la gélatine du paraître. Et ça, ça traverse vraiment votre travail. C'est vraiment, pour vous, c'est... même si j'ai dit tout à l'heure, vous avez publié beaucoup de bouquins, c'est pas la question du paraître qui vous préoccupe, en fait, vous. Dire les émotions, partager les émotions.
Oui, le partage. Le partage est très important. Donc, je parlais de la résidence tout à l'heure. Elle permet ce partage parce que quand on est seul, quand on crée, alors il y a de la joie à créer. Puis il y a de la joie à partager surtout. Mais si on est seul, c'est pas très intéressant. Ou même, j'imagine pas un poète, moi, chez lui, à son bureau, en train d'écrire un petit livre qui sera sur des étagères d'une librairie. Moi, j'imagine plutôt un poète ou un artiste. Je l'imagine vraiment au cœur de ses semblables et dans le cœur de la cité, comme on disait en temps. Et je trouve que transmettre, c'est quelque chose de primordial. Moi, je suis là parce qu'aussi, on m'a transmis des choses. Ma famille m'a transmis des choses. Je descends d'une lignée de conteurs, ils m'ont transmis des contes, les mots. Tout ça, c'est important. Et puis surtout, de vivre ensemble. Moi, toute ma vie, on m'a bassiné avec la liberté, par exemple. Et je trouvais ça drôle. Quand j'étais enfant, on me parlait de la liberté, c'est important. Évidemment, c'était des gens qui avaient été privés de liberté, qui étaient réfugiés en France. Et ils me disaient ça, mais dans une façon très simple et très joyeuse de vivre. ils étaient vraiment dans la vie. Ça, j'aimais bien. Donc, ils me parlaient de liberté, mais ils ne parlaient pas d'une liberté à imposer où il faut absolument être libre. Et ils n'avaient aucune tristesse en eux, ces gens. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'ils sont délicieusement venus sans papier, s'installer en France pour faire pour répandre le plus de gaieté possible dans la famille, mais aussi autour d'eux et dans le monde qu'ils habitaient.
Alors cette résidence, vous l'avez placée sous le signe de la désorientation. Vous intitulez votre introduction « Une résidence pour se perdre ». Et là, je reviens à 36 000 choses à faire avant de rejoindre Pérec. Je prends la chose 15, « Tracée sur les murs de la ville ». Ne me cherchez plus à l'heure où vous lisez ces mots. J'ai perdu mon adresse, ma maladresse. J'ai oublié mon nom, mon ombre. C'est accroché aux épines d'un roncier. On voit le jour à travers. Je ne peux plus me perdre. Je suis partout chez moi. C'est ça la résidence ?
Ah oui, ben c'est pas mal, tu vois. Vous voyez, je ne m'étais pas rendu compte. Et vous faites un excellent lien.
Ouais.
Oui, se perdre, c'est primordial, hein, surtout à l'heure des GPS.
Oui. Comment il y a un programme chargé quand même pour cette résidence, mais il y a un programme qui vous laisse aussi le temps de travailler quand même, parce que c'est important. Une résidence, c'est aussi un moment de travail. Vous allez travailler, vous, sur quoi ?
Alors, il y a un temps d'atelier avec des enfants, avec des adultes. Ça, pour moi, ce n'est pas du travail. C'est vraiment un grand bonheur de pouvoir faire ça. C'est une chance quand même, hein.
Oui.
Je mesure ça tous les jours. Et ensuite, je vais travailler sur des choses personnelles. Donc, je vais faire deux grandes toiles qui vont rester ici, 3 mètres par 2. Et je vais également essayer de perdre des carnets que je vais confectionner, que j'ai commencé à confectionner, qui seront terminés avant que je reparte cette fois-ci, parce que je la fais en deux fois, la résidence. Je reviens pour passer mi-avril à mi-mai, il me semble.
Oui, c'est ça.
Et donc là, les petits carnets seront faits, je vais les perdre un peu partout. Il y a des choses que moi, j'aurais commencé dedans, mais les gens pourront se les accaparer, continuer à écrire. Et puis des affiches aussi, des affiches de slogans que j'aurais écrits ici, et également des mots des enfants que je vais piquer. Je vais peut-être photographier même leur graphie et mettre ça en page, et puis essayer de concocter des petites affiches, des fausses cartes pour se perdre.
Eh bien, Pierre Soletti, je vais vous remercier d'être venu jusqu'au studio de Radio G. J'ai été enchanté de vous accueillir. On va faire une pause musicale.
Agrégeant nos molécules, nous réactivons nos cellules sur le... le bon tempo de nos radios actives, nous nous activons. Nous sommes évolués, nous sommes forts. Et nous dansons parmi les dinosaures. Nous dansons parmi les dinosaures. Nous dansons parmi les dinosaures. Nous dansons parmi les dinosaures.
Qu'est-ce que ça fait du bien. C'était encore Pierre Soliti, mais version rocker avec son groupe Facteur Zèbre qui chantait « Et nous dansons parmi les dinosaures ». Ça, c'est pour ceux qui n'auraient pas bien écouté la fin de la chanson. Et bien sûr, vous êtes sur Radio G où il est 17h maintenant 31. Vous êtes toujours sur la fréquence 101.5 et vous écoutez Entre les pages, l'émission qui parle du monde des livres en Anjou. Et ce monde des livres, bien que fragile, comme je l'ai dit dans mon édito, subit l'effet d'un petit tremblement de terre, il faut bien le dire, la création d'une nouvelle maison d'édition. Alors, Jean-Hugues Villacampa, ou plutôt, devrais-je dire, Monsieur le Président.
Oui, s'il te plaît.
Oui, c'était quoi cette histoire? C'est quoi?
Alors, en fait, l'histoire, elle est simple. C'est que les trois membres de la SAS sont des gens qui ont tous erré d'une manière ou d'une autre dans le monde du livre. Alors, et du jeu de rôle. Et tous avaient envie de monter une maison d'édition. Sauf que personne n'en avait les compétences parce que c'est un vrai métier, ma pauvre dame. Et donc, et on s'est rendu compte, à trois, qu'on possédait peut-être l'ensemble des compétences nécessaires à monter une maison d'édition. On s'est dit, bon bah tiens, puisque le monde du livre vit un moment merveilleux, que tout va bien, on va monter une maison d'édition. Bien entendu, tout le monde nous a dit, mais vous êtes complètement dingue. Ce à quoi on a répondu, oui.
C'est bien ce qui me semblait, oui.
Oui, absolument. Non, mais on l'assume complètement. Hein. Il faut être fou pour monter une maison d'édition aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on l'a fait.
Alors, vous, Jean-Hugues, les livres, vous êtes tombé dans le chaudron quand vous étiez tout petit, hein, ça ne vous quitte pas, bien que vous y ayez commencé. Alors j'ai découvert œnologie.
Oui, alors ça, c'était entre les périodes de livres.
Ah, ouais, c'est œnologie. C'est pas entre les périodes où vous étiez ivre, c'est les périodes
aussi.
De livres, c'est ça.
Voilà, absolument. Donc oui, j'ai fait œnologie à Montpellier, à l'INRA.
Eh bien...
Et c'était une expérience extraordinaire, sauf qu'après, il faut bosser dans les vignes et tout ça.
Bon, et donc, c'est les livres qui ont gagné.
Oui.
Alors, qu'est-ce qui... On a entendu trois mousquetaires qui pensent que leurs compétences réunies vont permettre vont permettre à une maison d'édition de vivre. C'est pour aller dans quelle voie, vers quel type de livre vous voulez publier?
Alors, je suis très heureux que tu poses la question. C'est que, justement, il n'y a pas un type de livre. La seule chose qui va rassembler nos livres, c'est leur maquette, c'est le fait qu'ils soient tous singuliers. C'est-à-dire que... parmi les trois livres que tu as entre les mains, ce qui se passe très très bien à la radio, comme tout chacun le sait.
Oui.
Donc, il n'y a pas de genre vraiment défini, même si la camionnette qui servait de volière est peut-être plus orientée un petit peu science-fiction, post-apocalyptique, paillard et rigolo.
Ça, c'est Brice Tarvel.
Ah, c'est Brice Tarvel. Et Bicène, en fait, c'est un livre sur la tolérance essentiellement. Et mais qui pourrait friser le fantastique puisque deux corps n'en font qu'un, ou trois corps.
Masculin,
ou...
féminin, enfin voilà, bon, ouais. Magnifique couverture. Hein.
Il était très content, Thierry Crozet.
Ah oui.
Qui est à Montpellier, lui aussi.
Ouais. Très belle couverture.
Et Claudine Londres, Gertrude Stein, c'est l'histoire de la génération perdue. Et Claudine a écrit un livre remarquable. Alors moi, je ne connaissais pas Claudine. J'ai lu après son premier roman qui était paru au Seuil, L'ombre de ma mère. Et c'est les deux Lascar qui me servent d'acolytes, qui m'ont dit, tiens, tu devrais lire ça, tout ça. Et effectivement, je suis tombé amoureux du livre. C'est un livre en une seule phrase. Alors, de temps en temps, il y a trois espaces dans le texte de façon à ce qu'on puisse respirer un peu. Et en fait, c'est un livre de la correspondance de la jumelle de Gertrude Stein, qui est aux États-Unis et qui écrit à sa sœur. Et c'est magnifique, quoi. Et c'est vraiment un hommage à Gertrude Stein, qui était un personnage absolument remarquable. Hein.
C'est extraordinaire.
Donc, alors c'est marrant parce que donc on est distribué par une sorte de distributeur pro. Alors ça aussi, c'est un métier. Mais pour la première année, on voulait être en contact avec les libraires. Donc on n'a pas pris de diffuseur. On diffuse et donc on appelle les libraires pour leur vendre notre Kaamelott. Et c'est plutôt agréable puisque les libraires sont des gens charmants, il faut le savoir. Il faut juste leur demander s'ils ont le temps. Mais s'ils ont le temps, sont des gens charmants. Et c'est eux qui nous ont appris. Ah bah tiens, oui, mais votre bouquin, j'en ai entendu parler et tout. J'ai commencé. Et en fait, effectivement, il y a une monographie qui est sortie il y a 2 ans sur Gertrude Stein et un autre bouquin. Donc on est, on n'a pas fait exprès, mais on est un petit peu mainstream sur ce coup-là. Mmh. Voilà.
Donc une maison d'édition qui s'inscrit dans une nébuleuse. On ne sait pas si c'est la nébuleuse d'Andromède, mais une nébuleuse. Et en fait, ce n'est pas du tout ça l'important. C'est l'important, j'ai l'impression que c'est le plaisir à faire partager des découvertes.
Oui. Alors, alors, je vais prendre l'exemple de Brice Tarvel et Thierry Crozet. C'est des gens qui ont écrit déjà des dizaines de
Ils ont des heures de vol.
Mais qu'on connaît mal. Et pourtant, qui sont... Brice Tarvel, c'est un immense conteur. C'est... Et il écrit dans tous les genres, l'ASF, le polar, l'aventure, la littérature rurale. Il a vraiment un sens du conte. On commence un de ses bouquins, c'est une véritable plaie. On commence le bouquin, il est 20h le soir et on se rend compte à 3h du matin qu'on est en train de le finir. C'est vraiment... Thierry Crozet, c'est pareil, c'est une plume. Alors c'est très incisif, c'est un monsieur qui vient de l'informatique. Et c'est lui qui a écrit le peuple des connecteurs, T, où il prouve que entre n'importe qui dans le monde et n'importe qui d'autre, il y a 10 personnes.
Ah oui.
Qui connaît, machin, et tout ça. Donc, voilà. Et alors moi, quand je l'ai connu, il y a une petite quarantaine d'années, il écrivait des carnets. Que j'ai gardé et il en faisait une quinzaine qu'il donnait à ses amis et voilà. Et en fait il a toujours eu l'écriture dans la peau et là Épicène le roman est une histoire puisque en fait c'est une nouvelle qu'il a envoyée pour l'anthologie imaginaire. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est génial, et il fait ouais t'as raison, rends-le moi, je vais faire un roman. Okay. Donc, il a envoyé une autre nouvelle à Imaginaire. Et le roman, nous le sommes accaparés habilement.
Alors, je vais poser la question que Pierre Soletti a failli me voler. Et c'est pas possible, on ne peut pas me voler mes questions.
Oui,
sinon, à quoi je servirais? Donc, je vais poser la question telle que je l'ai écrite là. Mais pourquoi à la flamme? Parce que je vais y mettre un petit appendice. Moi, quand j'ai vu À la flamme, j'ai pensé à Fahrenheit 451. J'ai pensé au 10 mai 1933 et aux autodafés. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là? Il y a la flamme, le feu, tout ça, c'est quoi?
Alors, écoute, je tiens à te dire pas du tout.
Ouais.
c'est la flamme de la passion. C'est vrai que les trois qui forment à la flamme sont des gens, et quand on regarde nos bibliothèques, tout le monde fait, mais ils sont fous. Et ça depuis toujours. Et c'est vrai qu'on a monté les maisons d'édition qu'on aurait aimé trouver. C'est un poncif, hein, je sais bien, mais c'est... Et surtout, on ne recule devant rien. Là, c'est notre première salve, donc sur la seconde, il y aura un écrivain anglais du début.
Richard Jeffries, et moi, j'aimerais bien qu'on en parle. Je l'ai noté, c'est aussi une question que j'ai écrite. Hein.
Ok, ouais, excuse-moi de te l'avoir devant.
J'aimerais pas que tu spoiles tout.
Oui, pardon, excuse-moi.
Non. Alors, il y a dans cette deuxième fournée, parce que la première fournée, c'est ces trois premiers romans dont on a parlé, une camionnette qui servait de volière, Brice Tarvel. Épicène.
Alors, Épicène, c'est un petit peu décalé parce que les deux autres sortent le 22 avril.
D'accord. Gertrude et compagnie.
Oui, ce qui nous permettra de les présenter au Festival Imaginaire, qui est le 26 et 27 avril.
Oui.
Et Épicène sort le 10 juin.
D'accord. Donc, ça, c'est la première fournée.
Oui.
Deuxième fournée qui est déjà annoncée.
Mm.
Et dans cette deuxième fournée, il y a un roman qui s'appelle After London de Richard Jeffries. Mais d'où ça sort, ce truc ?
Alors, Richard Jeffries, c'est une sorte de Jules Verne anglais.
Ouais.
Il est très connu en Angleterre. Je raconterai une petite anecdote, vous allez comprendre à quel point il est connu par rapport à nous. Il est sorti il y a une trentaine d'années en France, une traduction d'Evelyn Châtelain, c'était sa thèse de traduction anglais-français, dans une maison d'édition qui s'appelait Le Miroir Obscur, et ils ont dû en vendre 40. C'était pas distribué, tout ça. Et mes compères, toujours, parce qu'il faut dire que mes complices sont quand même des malins, m'ont fait lire After London, alors un post-apocalyptique rural au début du XXe siècle, c'est quand même un peu sauvage. Et effectivement, j'ai été enchanté de ce texte. Et donc, on a décidé de le rééditer, mais de réviser sauvagement la traduction. Et pour réviser la traduction, on a pris qui ? Evelyn Châtelain, donc, qui a
fait sa thèse.
Qui avait fait sa thèse à l'époque, il y a 30 ans, et qui aujourd'hui est responsable du syndicat des traducteurs anglais et français, machin.
Donc une vraie traductrice.
Oui, ah ben, de toute façon, on est des vrais correcteurs.
Intelligente et pas artificielle.
Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on a beaucoup travaillé avec Evelyn aussi, parce qu'il y a des trucs sur lesquels on était un peu... Parce que le vocabulaire est quand même un petit peu particulier, sur les palissades en anglais et tout ça, enfin, des conversations interminables. Et le bouquin n'est pas tout à fait complètement corrigé aujourd'hui. Mais
Il le sera.
On a récupéré une nouvelle qui était sortie aussi au Miroir Obscur, sur le même sujet. On a récupéré une autre nouvelle de Jeffries, qui là n'avait jamais été traduite en français. Et il y avait un monsieur qui avait fait une postface absolument merveilleuse, dont je ne vais pas me souvenir le nom. Et donc on fait...
Richard Kahn.
Non.
Non, c'est pas Richard Kahn, c'est pas grave, c'est pas grave.
Et donc, on lui dit, putain, elle est trop bien, votre postface, est-ce qu'on peut la mettre dans notre bouquin ? Et il fait, mais oui, bien sûr, je vais vous donner le nom de mon éditeur. Donc, on contacte l'éditeur et on lui dit, la postface de Mark Frost.
Oui, pardon.
Et vraiment sympa, et on pourrait la récupérer. Les mecs nous disent, mais bien sûr, mais avec un immense plaisir, on vous la laisse pour 8000 euros. Ok. Donc, on fait bon, peut-être pas alors. Donc, on appelle Mark Frost et puis on lui fait bon, on est désolé, Mark, mais. Et parce que vous voulez mettre combien ? On lui dit pas 8000 euros. Et là, il nous fait non, mais moi, je vous en fais une autre. Hein.
Ah, quand même.
Donc, il nous a refait une post-fast. Oui, parce que les Anglais sont. Enfin, il y a un club fan de Jeffries. Enfin, c'est... Et donc, il nous a refait une post-fast. Et là, on fait travailler un médiéviste pour expliquer 3-4 trucs qu'il y a dans le bouquin qui sera aussi. Qui fait que ce sera une pavasse, hein, force. Mais, voilà.
Donc, Richard Jeffries, donc, auteur, 19e siècle, hein, fin du 19e siècle, mort à 39 ans quand même. Hein.
Mmh. Ah ben ça.
Il a publié 28 bouquins. Enfin,
c'est un.
Pour moi, c'est une découverte. Quand j'ai vu la couverture, que j'ai vu After London, post-apocalyptique, je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là. Mais quand j'ai effectivement été creusé un peu ce qui était autour de cet auteur-là, j'étais... C'est donc les deux compères de À la flamme qui ont dit il faut rééditer, en fait, on va dire éditer Richard Jeffries en France. Eux, ils l'avaient lu Comment, en anglais, directement?
Alors non, enfin, je pense pas, parce que effectivement, ils m'ont filé le bouquin qui était sorti au D'accord. Miroir Obscur. Moi, donc l'un d'entre eux, mais ce sont des érudits.
Oui, parce que
Alors, ils s'appellent Jérôme Verdier et Frédéric Boudet. Frédéric Boudet, qui est son vrai nom, puisqu'il a un nom de plume qui est Robert Darvel.
D'accord.
Qui est éditeur des fascicules de Carnoplast. Donc, on pouvait trouver Phénomène J à l'époque, Delphine, et qui a eu le prix Imaginal il y a 3-4 ans. Voilà.
Alors, on a parlé de la maison d'édition, on a parlé de comment vous abordez ce travail-là, c'est-à-dire qu'on publie ce qu'on aime. Est-ce qu'il y a un appel à candidature, des appels à texte, est-ce qu'il y a... Ou vous dites non.
Alors, ça va être une révélation, j'ai commencé à le dire sur les réseaux sociaux, mais non, nous ne demandons pas, nous ne prenons pas de manuscrits.
Okay.
En fait, c'est nous qui faisons la démarche vers les auteurs. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait appel à... J'ai fait appel à Jean-Bernard Pouy et Jean-Hugues Opel, en leur disant, ben voilà, vous êtes à l'origine de la nouvelle vague de la série noire... Ça serait sympa si vous nous le racontiez. Mmh. Et ils m'ont envoyé balader. Donc, on verra plus tard. Je vais leur montrer les bouquins. Et puis,
ils le prennent de haut dès que ça monte à la tête.
Mais absolument pas. Je pense qu'ils n'ont pas du tout envie de faire ce boulot-là. Parce que c'est vrai que c'est un peu comme si on disait à Mick Jagger, alors raconte-nous l'histoire des Rolling Stones. Bon, c'est vrai que c'est un peu biaisé. À moins de souffrir de narcissisme. Donc, voilà. Il faut que je trouve un autre angle pour les attaquer.
Alors, la question d'une aventure de ce type-là, parce qu'à mes yeux, c'est une véritable aventure, la question, c'est malgré tout, et on est obligé, en tout cas, moi, il me semble important de la poser, c'est la question de l'économie d'une telle entité. Parce qu'à un moment donné, publier 3 livres, ça veut dire travailler avec des imprimeurs, ça veut dire tout un travail.
Avec des correcteurs, des traducteurs. Voilà. Oui.
Donc, il y a un modèle économique.
Oui, il y a un modèle économique qui est très, très simple.
Oui.
C'est tu pètes ta tirelire et tu sais que tu ne vas pas gagner un rond. Et là, ça peut passer.
Ouais.
Voilà, c'est ça et le modèle économique.
La tirelire, il n'y en a qu'une. Une fois qu'on l'a cassée, il n'y en a pas deux.
Alors, alors, il faut bien espérer. Alors, on a pété notre tirelire, on n'a pas mis 300 euros. Hein. Oui. Mais le truc, c'est qu'on ne part pas pour gagner de l'argent, même si on serait très, très, très content d'en gagner. On part sur l'idée que il y a des bouquins qu'il faut qu'on édite. Mm-hmm. Donc, on va le faire. On prend le risque de se faire bouffer notre tirelire. C'est un risque à prendre. Le truc, c'est que... Alors, et c'est un truc qu'on partage avec Frédéric Boudet, c'est que nous avons réussi plein de choses. Pourquoi ? Parce qu'on a échoué un nombre bien supérieur. Donc, à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Donc, si on veut monter une maison d'édition aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, et qu'on veut le faire pour gagner de l'argent, eh ben, faut pas du tout éditer ce qu'on édite là.
Ben oui, c'est bien ce qui me semble. Ouais.
Ouais. On fait de la romantaisie, on fait pas de poésie, surtout pas, non plus. Donc, voilà. Alors, nous, on prend le risque parce que on va... les contacts qu'on a avec les libraires, le type, j'appelle... c'est Claudine Londe, elle est parisienne. Donc, j'appelle des libraires parisiens, le premier me jette, quand je dis, ben voilà, ce serait bien si on faisait une séance de dédicace, l'auteur vient, fait des lectures et tout... Il me jette. Le deuxième me fait, je suis un petit peu perplexe. Et le troisième me fait, oui. OK. Et on va rassembler 60 personnes dans sa librairie. Donc, effectivement, c'est un combat. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter d'imprimer des bouquins et les mettre chez le distributeur. Il faut faire passer le feu sacré après autour de nous.
Parce que là, malgré tout... c'est un risque, évident, c'est un risque économique. Et on sait qu'une entreprise, si l'économie ne suit pas, elle capote. Est-ce que vous êtes donné une durée de vie, un délai en disant au bout de X, ou vraiment quand la tirelire, il n'y a vraiment plus un copec à l'intérieur, c'est mort, quoi. Comment vous appréhendez cette durée, en fait, parce que c'est important de pouvoir se projeter quand on est dans une entreprise de ce type-là.
Alors, il y a une première chose qu'il faut savoir, c'est que quand on montre une entreprise, on ne se demande pas comment elle va fermer. Ça, c'est la première chose. On va se dire comment faire pour gagner. Et pour l'instant, on est uniquement dans ce, dans cette optique-là. Mmh. Et si on monte une boîte en se disant « Putain, on va se planter, c'est un cauchemar », il ne faut pas le faire. Mmh. Donc, on l'a monté parce qu'on y croit. Et on y croit. Alors, tous les trois, on a fréquenté très longtemps le monde du livre. Donc, on sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. On sait qu'il y a des choses qu'il faudrait vraiment faire pour gagner du pognon. Mais ça, on ne veut pas. Mmh. La romantaisie, c'est pas notre truc. Et puis on a des projets. Hein. C'est-à-dire que là, il y a les deux premières salles qui sont prêtes. La troisième n'est pas loin. Et puis, on va faire une collection de poches aussi, qui s'appellera en toute poésie Les Petits Bâtards. Et là, on va éditer des trucs complètement aliénoïdes. Hein. Là, on est presque académique par rapport à ce qu'il y aura dans Les Petits Bâtards. Mmh.
Le nombre de bouquins prévus par an, c'est combien ?
C'est un sujet de discussion.
Ouais.
Les pessimistes disent 3, les optimistes disent 6, sans parler dans la collection à la flamme, celle-là en grand format. Mais techniquement, c'est 3. Mais on va voir ce qui se passe.
Parce que vous êtes 3, accompagner 3 livres en termes de communication, en termes de support, en termes de rendre visite aux libraires, accompagner les auteurs, enfin, bon, c'est du boulot. Enfin,
bien
c'est
sûr, un, ah, c'est un métier.
À plein
oui.
temps. Le faire déjà sur 3, c'est effectivement ambitieux, oui.
C'est la raison pour laquelle, pour l'instant, on s'est fixé 3 au minimum. On veut voir comment ça se passe, savoir comment on réagit. Effectivement, il y a du commerce. Et puis, on n'en fait pas tous. Commercialement, on est 2 à bosser sur le commerce. Sur l'édition, ils sont 2, c'est pas moi. Et donc, on lit tous ces bouquins, mais le travail d'édition, rentrer dans le texte, dire bah là, t'es sûr que machin, là, sur la salve 2, il y a un auteur, il a déjà viré 40% de son texte. Hein, pour vous donner une idée du travail.
Ça devient une nouvelle là, quoi.
Comment ?
Ça devient une nouvelle là.
Non, c'est un gros texte.
Ouais, bon. Alors c'est bien.
Oui.
Alors c'est bien. Alors c'est préférable. Mais est-ce qu'il y a un minimum de vente par bouquin ou sur une salle de 3, est-ce qu'il y a un minimum de vente pour se dire c'est pas mal quoi. Vous, c'est édité à combien d'exemplaires chaque volume ?
Alors là, on fait des premiers tirages à 800 pour voir.
Ah oui, quand même.
Ah ben oui. Pour grosso modo un placement classique par un diffuseur classique, donc pas nous,
oui.
C'est 400. Mmh. Donc, pour donner un ordre d'idée, le monsieur qui va accueillir Claudine Londe pour ses dédicaces, signatures, débats, machin et tout, il en prend 50. Là, imaginez, il y en aura une quinzaine. Donc, ça peut aller assez vite, ça dépend qui et si on a charmé le monsieur ou pas. Ou la dame, d'ailleurs.
J'avais dit que c'était une aventure folle, je reste convaincu que c'est une aventure folle. Oui. Ça fait vraiment plaisir de voir des gens fous. Moi, ça me ravit de voir des aventuriers qui se disent « on y va, finalement, il faut y aller ». C'est ce que nous a dit Pierre Soletti tout à l'heure. Il faut faire, parce que si on ne fait pas, de toute façon, on meurt. Donc, ça n'a aucun intérêt. Jean-Hugues Villain-Campa, merci de cette visite. J'ai été ravi qu'on se voit dans le cadre de l'émission, même si on se voit à d'autres moments et à d'autres endroits. On peut le dire dès à présent, À la Flamme sera présent sur le festival Imaginaire, bien évidemment, qui a lieu, rappelle les dates.
Le 26 et 27 avril.
Ah oui, c'est bientôt.
Ah ben, ça rigole pas. Hein.
Bon.
On sort le 22, 4 jours après, il y aura les bouquins Imaginaire.
Magnifique. Eh bien, on va faire une seconde pause musicale.
Marcel en archipel. Il, tous des îles qui se morcellent en archipel. Elle, toutes des îles qui se morcellent en archipel.
Jusqu'au bout du silence, c'était le groupe Des Lions pour Des Lions qui a chanté La Petite Aventure et cet extrait de leur dernier album No Border, un titre un peu anachronique par ces temps plutôt tourmentés. Mais l'heure est venue de tirer ma révérence. Avant de partir, je tiens à apporter tout mon modeste soutien aux salariés de la librairie Contact et à ceux de la SADEL. L'annonce de la fermeture au mois de septembre prochain a surpris tout le monde. La librairie Contact est particulièrement active à Angers. Elle accueillera le 3 avril prochain Mathilde Bosseau pour son roman Les Saules. Mathilde Bosseau qui est venue dans l'émission le 26 février dernier. Le podcast est toujours sur la page de l'émission. On est toujours démunis devant ce genre de nouvelles. Que faire? Sinon, rappeler qu'un livre, ben, ça s'achète dans une librairie. Moins dramatique, ce vendredi 29 mars à 20h, lecture de « À hauteur d'herbe », un texte de Jackie Essirard, c'est à Centrale 7, à Segré en Anjou bleu. Et puis attirer votre attention sur Écriture en acte du 22 avril au 7 mai. C'est un projet autour des écritures contemporaines organisées par le Quai en partenariat avec le TCB, le CAT, les 400 coups et le THV. J'inviterai les organisateurs à venir nous en parler. Et puis encore, les 10 et 11 mai prochains, vous dire que le Repos Sauvage dans l'île de Chalonne organise un stage d'écriture animé par Antoinette Bois de Chêne. Et puis ne pas oublier la résidence de Pierre Soletti et se rendre à la lecture qui aura lieu ce vendredi 28 mars à la Société de Boules de Fort. Alors, il faut le dire toujours parce que c'est trop délicieux. À la Société de Boules de Fort, la Renaissance, 60 rue Pierre Mendès France à Soucelles. Au cœur de l'émission, vous avez entendu Facteur Zèbre qui a chanté « Et nous dansons parmi les dinosaures » et « Des lions pour des lions » qui a chanté « Une petite aventure ». Le prochain rendez-vous, je m'en réjouis d'avance, ce sera le mercredi 9 avril à 17h. Je recevrai le grand dessinateur Marc-Antoine Mathieu et nous parlerons des Fiches de Kafka, l'objet éblouissant publié par les éditions Nous. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de Réfi et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight, and then go straight.
Générique.